9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison Blanche sont comparés aux 100 premiers jours de Franklin Roosevelt. Alors seront-ils aussi décisifs sur le plan historique? Peut-on parler de coup de barre à gauche de la part du nouveau président des États-Unis et en déduire que la France est une fois encore à contre-temps? On va poser la question à un professeur au Collège de France, l'économiste Philippe Aguillon. Et le télétravail est-il l'avenir? C'est ce que laisse entendre l'enquête réalisée par Microsoft dans plus de 30 pays. On va demander son avis à Olivier Siboni, qui a enseigné la stratégie à HEC et à Oxford. Et l'on terminera l'émission avec Ariane Chemin, qui est partie à la recherche de l'un des écrivains les plus lus dans le monde, qui est aussi l'un des plus mystérieux, 36 ans, qu'il ne donne plus d'interview, c'est Milan Kundera. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Vous avez enseigné à Harvard, à la London School of Economics, à l'École d'économie de Paris. Au Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Votre dernier livre, Le pouvoir de la destruction créatrice chez Odile Jacob, est numéro un des ventes de livres d'économie sur Amazon aux États-Unis. Le plan de relance de Joe Biden, est-ce qu'il est aussi impressionnant qu'on le dit ?
Je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Il faudra voir si ça fera des changements structurels, mais il y a une prise de conscience aux États-Unis que, à cause du Covid, que le modèle social est cassé. Voilà. Donc, c'est un modèle social qui n'a pas su protéger les faibles. Beaucoup de gens qui ont perdu leur travail ont du coup perdu la couverture santé. Beaucoup sont tombés en pauvreté. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, il y a une prise de conscience aux États-Unis que le modèle social ne fonctionne pas. Et en tout cas, si vous voulez, l'ampleur du plan Biden montre qu'il y a cette prise de conscience. Alors, le tout, c'est de savoir si ça va déboucher sur des changements structurels durables. Est-ce que ça va déboucher sur une refonte du modèle social? Est-ce qu'ils vont mettre en place un État-providence comme chez nous? Ça, c'est pas encore dit. Mais il y a une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose d'important.
Alors justement, est-ce qu'on peut le comparer au New Deal que Franklin Roosevelt avait instauré en devenant président des États-Unis en 1933? On se souvient que c'était la Grande Dépression et il succédait à une période qui avait été ultra-libérale. Hein. Tous les présidents précédents, c'était des ultra-libéraux. Et c'est ce qui avait donné là, justement le jeudi noir de Wall Street.
En termes de montant, c'est impressionnant. Je ne sais pas encore si en termes de changement structurel, ça sera impressionnant. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va être un package, comme on dit en anglais, temporaire, ou est-ce qu'il va rester des changements structurels durables du modèle social aux États-Unis? C'est ça qui est encore la question.
Il a défendu l'idée d'un big government. Ça rompt avec la tradition de ces quatre dernières décennies, quasiment.
Oui, c'est ça. Il y a une prise de conscience que, de toute façon, il y a un grand problème d'éducation aux États-Unis. Hein. Donc, on sait que il y a un accès très inégal à l'éducation. Les infrastructures sont détériorées énormément.
Et c'est là qu'il investit, dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures.
Absolument. Donc, je pense que il fallait le faire. Voilà. Donc, je pense que c'est bienvenu. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils vont mettre en place, par exemple, ce que les Danois, les Scandinaves, nous, d'une certaine façon, nous avons mis en place, qui sont des mécanismes de protection.
Ça paraît impossible pour les Américains, c'est du socialisme, ça.
Voilà, donc d'abord, dès qu'on fait quelque chose de ce genre, il y a l'idée, il y a le procès en socialisme. Et puis le gros problème aux États-Unis, c'est que le pouvoir des lobbies est très important. Les grosses entreprises ont un pouvoir de lobbying parce qu'ils ont aussi le pouvoir d'influer sur les élections. Beaucoup plus que chez nous. Chez nous, les campagnes électorales sont très réglementées, le financement des campagnes. Ce n'est pas le cas chez eux. Il y a eu la Rescalia, vous savez, de la Cour suprême, qui permet aux entreprises privées de financer sans limite les campagnes politiques. Donc, voilà, ça sera...
C'est la classe moyenne qui est privilégiée par son plan de réduction des inégalités, financée par une hausse des impôts des plus riches, enfin du 1% les plus riches, oui. et des entreprises. Ça aussi, ça semble un véritable changement. Le fait de viser la classe moyenne, normalement, depuis au moins 4 décennies, on visait plutôt les premiers de cordée. C'était à eux qu'on donnait des facilités en espérant qu'ils entraînent les autres.
Voilà. Je crois que c'est très bien qu'il il fallait augmenter les impôts aux États-Unis. Et je crois que ce qui est bien, c'est qu'il aligne davantage, il rapproche, disons, la fiscalité américaine de la nôtre, par exemple, ou de celle des pays européens. Et également, avec le FMI, de concert avec le Fonds monétaire international, il insiste pour qu'on lutte contre les paradis fiscaux et qu'on impose un minimum un taux minimum d'imposition sur les sociétés dans tous les pays. Donc ça, je trouve que c'est une démarche tout à fait positive.
On le dit, influencé par le programme de la gauche radicale, bon, il va quand même pas jusqu'à créer un système de couverture universelle de santé, comme vous l'avez dit, ni d'impôt sur la fortune, hein, comme le préconisait Bernie Sanders. Voilà. Mais est-ce qu'il est de gauche quand même pour vous, Bernie Sanders, Biden?
En tout cas, c'est progressiste. Oui, c'est certainement un agenda progressiste, mais il part, il faut voir la différence avec la France, c'est que le point de départ n'est pas le même. Nous sommes déjà un des pays qui imposons le plus. Donc nous, le problème, ce n'est pas d'augmenter les impôts. Il y a peut-être d'autres réformes que nous pouvons faire. Je pousse beaucoup pour un revenu universel d'insertion jeune en France. Voilà,
Vous voudriez que Emmanuel Macron, au fond, distribue de l'argent, un peu comme est en train de le faire Joe Biden, mais aux jeunes?
L'idée, ça serait que, si vous voulez, aux jeunes qui veulent étudier, aux jeunes en apprentissage, aux jeunes qui veulent faire un effort d'insertion, eh bien, ils ont un revenu, une autonomie. On leur donne une autonomie pour pouvoir le faire, voilà. Et on le fait à grande échelle. Et je pense que c'est faisable. Je pense que ça aurait de la gueule de faire ça, voilà. De dire, voilà, la dernière année du quinquennat, on met en place, c'est une réforme, à mon avis, à 15 milliards, on met en place ce revenu universel d'insertion jeune. C'est-à-dire qu'il faut passer ses examens, où il faut travailler, être en apprentissage. C'est pas un revenu pour ne rien faire en échange. C'est un revenu, mais c'est très sur le modèle danois.
Vous ne craignez pas qu'on reproche à Emmanuel Macron de faire du clientélisme juste avant les élections?
Écoutez, non, je pense que le Covid, si vous voulez, les jeunes ont payé un prix très élevé. Moi, je regardais des statistiques sur les jeunes. Par exemple, plus d'un jeune, au mois de décembre, on considérait, donc ça a dû s'aggraver depuis décembre dernier, plus d'un jeune sur six a arrêté ses études. 31% des étudiants présentent des signes de détresse psychologique. Plus de 50% des jeunes sont inquiets pour leur santé mentale. Donc il y a vraiment quelque chose à faire.
C'est sûr que ce ne serait pas du luxe. Parlons de la France, Philippe Aguillon. Est-ce qu'elle est à contre-temps, une fois de plus, comme certains le disent? Il y a 40 ans, vous vous souvenez, quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan ouvraient le chapitre du néolibéralisme, la France, elle, élisait François Mitterrand avec son programme socialiste de nationalisation. Aujourd'hui, quand Joe Biden semble refermer la page du néolibéralisme, en augmentant notamment les impôts des entreprises, par exemple, nous continuons de les baisser, les impôts des entreprises, et nous avons un président qui est qualifié de président des riches et dont on dit qu'il est le plus libéral de tous les présidents de la République de la 5e.
Alors, sur la fiscalité, vous savez, les réformes que Macron a entreprises au début de son quinquennat, c'était vraiment celles que les Suédois ont faites au début des années 90. C'était en gros aligné, voilà, on surimposait le capital. Donc l'idée, c'était de rétablir. Nous sommes encore le troisième pays de l'OCDE qui taxons le plus le capital. Il faut que les gens le sachent. On n'a pas du tout cassé l'État-providence en France. On n'est pas le pays qui impose le moins. On est un pays qui impose le plus. Alors il y a ces fameux impôts de production. Vous savez que en général, dans les pays, les entreprises payent des impôts sur leurs bénéfices, mais pas quand elles achètent des inputs. Nous, on a cette particularité qu'on a ces impôts de production et qui fait que les entreprises délocalisent. Donc on veut, nous, arrêter, endiguer cette délocalisation. Donc il fallait s'attaquer à cette bizarrerie française qui était les impôts de production.
C'était mais pas tout du contenu, néolibéralisme, vous
c'est
le dites.
Absolument pas. Non, on impose autant que les pays scandinaves, qui sont les pays les moins inégalitaires au monde. Et d'ailleurs, on a bien vu pendant la crise du Covid que les entreprises et les ménages ont été fortement protégés. Le PIB a baissé très sensiblement, la consommation des ménages a très très peu baissé pendant la période du Covid.
On fait une petite pause, Philippe Aguillon, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec l'économiste Philippe Aguillon, on parle de Joe Biden, mais aussi d'Emmanuel Macron, on fait la comparaison au fond. Alors justement, ces hausses d'impôts considérées comme révolutionnaires que préconise Joe Biden et qu'il va certainement réussir à appliquer, ça consiste à passer de 21 à 28% le taux d'imposition des entreprises, 21 à 28%. Voilà. En France, c'est combien?
Alors en France, on est à 26, plus les impôts de production. Donc si on additionne 26%, l'impôt sur les bénéfices plus l'impôt de production, on est au-dessus des 28%.
Bon.
Donc il nous rejoint.
Il nous rejoint. Et si, alors il veut imposer les plus riches, en tout cas le 1% les plus riches, de 37 à 39,6%, voire 43,4%, parce qu'il y a 3,8% de contribution au système de santé. Hein.
Voilà.
Et en
donc
France,
à nouveau, on est au-dessus.
On est au-dessus aussi.
Oui, absolument. Bon. Je crois qu'on est en tranche à 45, plus la CSG, oui, on est au-dessus, bien sûr.
Bon, et cela dit, il vise le 1%, mais pas les milliardaires. Hein. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune aux États-Unis, il n'a pas l'intention d'en faire un. Cela dit, la taxation des gains en capital et des dividendes sera alignée sur le revenu pour ceux qui gagnent plus $1 million par an. Tout là aussi, c'est pareil que nous.
Oui, enfin, je crois que oui, absolument. Je crois pas qu'on pourra dire que l'imposition est plus importante aux États-Unis qu'en France. Oui.
Vous avez remarqué que l'idée d'un impôt Covid sur les riches est en train de faire son chemin quand même. Le FMI, dans une note, cite au rang des remèdes envisageables contre la crise, une augmentation de l'impôt sur le revenu, une augmentation de l'impôt sur les successions et les donations, une augmentation de la fiscalité foncière, voire un impôt sur la fortune. De la part du FMI, c'est quand même énorme. Ils sortent de l'orthodoxie néolibérale.
Oui. Alors moi j'y réfléchis moi-même avec des amis, on en discutait.
Soutenu François Hollande.
Oui, mais alors c'était pas sur les hausses, oui, mais enfin c'était. Moi j'avais beaucoup soutenu le CICE et le pacte de responsabilité. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un impôt spécial Covid ? La grande difficulté, d'abord, et ça ne peut pas être dans un seul pays, ça peut être dans plusieurs pays en même temps. Donc il faut déjà que d'autres pays soient d'accord pour le faire. Donc
c'est l'harmonisation fiscale.
Et puis la deuxième chose, c'est que c'est l'idée de ce qu'on appelle en anglais le one-off, c'est-à-dire je le fais une fois. Mais nous, en France, chaque fois qu'on a essayé de faire un impôt pour une fois, il a été pérennisé. Voilà, donc il faut bien le dire. Donc, c'est ça la difficulté. Vous comprenez, si on n'a jamais la garantie que ça serait un impôt par plusieurs pays one-off, je suis à fond pour. Mais malheureusement, je doute que nous soyons capables de le faire. Voilà. Donc, il faudrait trouver un moyen de rendre crédible l'engagement à ce que ce soit un one-off. Ça, c'est pas facile.
Cette crise dans laquelle nous sommes est quand même une crise très particulière. C'est une crise conjoncturelle. Elle a été provoquée consciemment pour lutter contre le Covid. Qu'est-ce qui nous arrive en fait ? Soit on est empêché de produire, soit on est empêché de vendre, soit on se retient d'acheter. C'est ça, en fait, la crise dans laquelle on est aujourd'hui.
C'est ça. En fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il y a eu des secteurs qui ont dû fermer. Des choses qu'on
ne pouvait
plus faire. Voilà, qui étaient l'aéronautique, les transports. Donc ça a été un choc d'offres. Mais ensuite, comme il y a eu ce choc d'offres, il y a eu moins de revenus générés. Et donc, moins de demandes. Et donc, ce choc d'offres s'est transformé en choc de demandes. Donc, il fallait agir sur deux fronts. Le front de l'offre et le front de la demande. Le front de l'offre repart, mais il va falloir faire en sorte qu'il reparte bien. Donc là, le soutien aux entreprises va devoir continuer, même après la fin de la pandémie, la reprise, à mon avis, pour leur permettre de reprendre. Et puis la demande, il y a une épargne accumulée, donc il faut que les gens consomment. Donc on espère que les taux d'épargne vont rebaisser et que les gens vont se mettre à consommer. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être recourir, alors, de manière contingente, à des mesures, genre baisse de TVA, etc. Il faut apporter plus d'une attitude de dire voyons ce qui se passe et soyons prêts, le cas échéant, à intervenir aussi du côté de la demande. Mais je crois qu'il y a d'autres leçons du Covid dont je voudrais parler. Donc ça, c'est comment réagir à court et moyen terme. Mais le Covid a révélé deux grandes leçons. Aux États-Unis, modèle social qui ne marche pas du tout. Il faut qu'ils revoient leur modèle social. En Europe, système d'innovation qui ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est incroyable qu'on n'ait pas été capable de produire un vaccin. Vous vous rendez compte que l'ARN messager, c'est François Jacob, c'est l'Institut Pasteur. C'est nous qui aurions dû produire l'ARN messager. On n'a pas été capable de le faire. Et parce que, en fait, à tous les stades de l'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications industrielles, nous sommes en dessous de ce que nous pourrions faire. Vous voyez, on a une recherche fondamentale sous-financée. Nous n'avons pas l'équivalent de la BARDA, de la Biological Advanced Research Development Agency, qui est cette espèce d'organisme aux États-Unis qui permet de passer de la recherche fondamentale à la production industrielle en masse. C'est comme ça qu'ils ont pu produire en moins d'un an à échelle industrielle Pfizer et Moderna, etc. Nous n'avons pas ça en France et en Europe. Donc, si vous voulez, tout l'écosystème d'innovation qu'ils ont, nous ne l'avons pas. Et là, il faut, au niveau français et européen, qu'on bâtisse cet écosystème d'innovation. Et la réindustrialisation passera par le refonte de ce système d'innovation. Ça, c'est le grand chantier que nous avons et qui a été, dont la gravité du problème de l'innovation en France a été évidemment révélée encore plus par cette crise du Covid.
Vous n'avez pas l'impression, Philippe Aguillon, qu'on a vu à quel point l'Europe n'était plus à la pointe de la modernité? Quand j'étais enfant, quelle que soit la catastrophe qui se passait dans le monde, notamment sanitaire, c'était les Européens qui allaient à la rescousse des autres continents, des autres nations. Là, pour la première fois, on a l'impression qu'on était non seulement totalement désemparés, mais que si les Coréens du Sud étaient venus nous aider, on aurait trouvé ça normal, tellement ils en savaient plus que nous. C'est une sacrée révolution.
Oui, parce qu'il y a eu une obsession des coûts, de réduction de coûts, et aussi au niveau européen. C'est-à-dire, je pense que Maastricht, avoir une discipline budgétaire, c'est important. Mais il y a eu une obsession des coûts au détriment des investissements de croissance. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'on sait que la dette soutenable dépend de la différence entre le taux de croissance et le taux d'intérêt. Quand vous augmentez votre taux de croissance potentiel, vous augmentez la dette soutenable, parce que c'est avec la croissance que vous remboursez la dette. Et nous, l'obsession des réductions de coûts, on fait qu'on a porté atteinte à notre potentiel de croissance. Donc, il faut faire des investissements de croissance. Je parlais du revenu jeune, c'est un investissement de croissance. L'éducation, la formation, la politique industrielle, ce sont des investissements de croissance. On ne peut pas raisonner avec ces dépenses-là comme on raisonnerait avec d'autres types de dépenses. Il faut voir les choses autrement. Donc, Maastricht est à revoir complètement. On ne peut plus refaire Maastricht. Il faut faire autre chose. Il faut une discipline budgétaire, mais très différente.
Merci Philippe Aguillon d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre dernier livre, Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est paru chez Obidil Jacob. On se retrouve après une pause avec Olivier Sibony. On va parler du télétravail qui est là pour s'installer.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé que la règle du 100% télétravail pourra s'assouplir à partir de la mi-mai par étapes successives. Au même moment, l'entreprise Microsoft publie les résultats d'une grande enquête sur le travail à distance réalisée sur 30 000 personnes dans 31 pays. Alors Olivier Sibony, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste du management, vous avez enseigné la stratégie à HEC, à la London Business School et à Oxford. Votre dernier livre, vous allez redécouvrir le management 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions est paru chez Flammarion. Et puis vous êtes un chroniqueur hebdomadaire sur TTSO, une lettre quotidienne sur l'actualité. Microsoft semble en savoir plus long que n'importe qui sur la manière dont on travaille depuis le début de la crise du coronavirus. Vous avez également cette impression ?
Oui, Microsoft a le grand avantage sur vous et moi d'avoir accès, en les anonymisant bien sûr, à toutes les données des suites bureaux que nous utilisons. Donc Microsoft peut mesurer par exemple que le nombre de réunions que nous faisons sur Teams, leur application de vidéoconférence, a augmenté d'une quarantaine de pourcents depuis l'année dernière, peut mesurer que la durée de ces réunions est passée de 35 minutes à 45 minutes, et a toutes sortes d'indications comme ça qui leur permettent d'avoir des données quantitatives qui éclairent et qui confirment dans une large mesure ce qu'on soupçonnait sur le fonctionnement quotidien du travail à distance.
Alors il en ressort que le télétravail est là pour durer.
D'abord il en ressort ce que les gens pensent du télétravail. Et ce qu'ils disent du télétravail, c'est qu'au fond, ils s'attendent à ce que ça dure pour une combinaison de raisons. Les salariés ne veulent pas revenir au bureau à 100%. Ils le disent à peu près 75%, si j'ai bonne mémoire. Mais en revanche, comme on n'est jamais à l'abri d'un paradoxe, 67% des gens que Microsoft a interrogés sont assoiffés de contact humain en personne avec leurs équipes.
Oui, ils souffrent d'isolement. Donc en fait, ce que les gens...
Oui, ils souffrent de l'isolement et il y a beaucoup de choses pour lesquelles ils veulent se retrouver et retrouver la joie de la machine à café. Donc ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent la flexibilité, ils veulent pouvoir aller au bureau quand ils veulent et rester chez eux quand ils veulent pour ne pas être tous les jours dans les embouteillages. Et la conséquence de ça, c'est que toujours selon cette étude de Microsoft, les deux tiers des dirigeants sont en train de repenser l'organisation de leur bureau, ce qui veut probablement dire pour une bonne part en réduire la surface, puisqu'on va pas continuer à payer le même nombre de mètres carrés si on a deux fois moins de gens, mais aussi les aménager de manière à favoriser justement plus de contacts humains quand les gens sont là, plutôt que de leur donner des espaces de travail individuels. Donc ce que tout ça dessine, c'est une révolution assez profonde du travail de bureau, que l'année dernière on considérait comme une espèce de transition. Il y avait bien sûr des gens pour dire le monde d'après sera très différent, mais franchement il y a un an c'était de la spéculation. Aujourd'hui je crois qu'on peut commencer à dire que les habitudes que le travail à distance nous a fait prendre sont rentrées dans les mœurs et qu'on ne reviendra pas au 100% présentiel, en tout cas pour tous les gens pour qui c'est possible, on ne reviendra pas au 100% présentiel quand on peut l'éviter. Et ça sera, il y aura vraiment eu un avant et un après.
Voilà, on va vers quelque chose d'hybride entre le télétravail et le présentiel. En même temps, alors on l'a compris, la productivité est bonne, mais laquelle ? Quelle productivité est bonne exactement ? Parce que vous-même, Olivier Sibony, vous avez fait la différence assez tôt, hein, il y a plusieurs mois déjà, entre tout ce qui concerne le travail individuel, tout ce qui est organisé, prévu, transactionnel, et ça marche plutôt bien, et puis tout ce qui est informel, tout ce qui est innovant, tout ce qui est collectif, et là, ça marche beaucoup moins bien.
Oui, ce qui m'a frappé déjà au début de la pandémie l'année dernière, quand on parlait aux gens qui expliquaient comment ils s'adaptaient au télétravail, c'est qu'on retrouvait cette distinction que vous venez d'esquisser, Frédéric, et qui est une distinction classique en théorie des organisations, entre ce qu'on appelle souvent l'exploitation et l'exploration. Alors ça paraît un peu technocratique, mais en fait c'est assez simple. L'exploitation, ça consiste à gérer le court terme, à gérer son business au quotidien aussi efficacement que possible. L'exploration, ça consiste à préparer l'avenir. Et tout ce qui est l'exploitation, tout ce qui est la gestion du quotidien, en fait se formalise assez facilement, peut même se processer, s'automatiser, et donc finalement se prête assez bien au travail à distance, et on peut même dire que, par certains aspects, le travail à distance nous force à le rendre plus efficace. Il y a pas beaucoup d'études sur la productivité du travail à distance, mais le peu qu'il y a eu sur des choses comme, par exemple, des agents de voyage qui travaillent de chez eux, montre qu'en fait, ils sont plus productifs parce qu'ils accomplissent les tâches répétitives avec plus d'efficacité, ils perdent pas de temps à parler à leurs collègues, ils perdent pas de temps à la machine à café, ils perdent pas de temps à penser à autre chose, et donc leur productivité augmente. Mais ça, c'est l'exploitation. Dans ce qu'on fait dans une entreprise, il y a toute une partie du travail qu'on fait qui consiste pas à seulement gérer le court terme, qui consiste à imaginer de quoi demain sera fait. Et pour ça, il faut des réseaux informels, il faut des contacts à la machine à café, il faut des réseaux étendus, il faut garder le moral. Et toutes ces choses souffrent terriblement du télétravail. Et au fond, ce que le télétravail intensif d'aujourd'hui nous dessine, c'est une espèce de manière de scier la branche sur laquelle on est assis, où on est en train de vivre sur son acquis et où on dit que tout va très bien, Madame la Marquise, alors qu'en fait, on est en train de saper ce qui fait le fondement des organisations, d'une certaine manière.
Olivier Sibony, je vous propose de faire une pause et on y revient tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Olivier Sibony et on étudie l'étude de Microsoft réalisée sur plus de 30 000 personnes dans 31 pays. Une étude très très détaillée sur le télétravail et les conséquences au fond dans l'organisation des entreprises de la crise du Covid. On l'a dit, en fait, on communique toujours avec ses collaborateurs immédiats, mais les réseaux se sont rétrécis. Il y a un exemple, c'est qu'on ne déjeune plus. Ça semble futile et sans importance. Mais est-ce que c'est si futile et si sans importance que ça, d'après vous, Olivier Sibony ?
C'est pas futile du tout, c'est très important. Le déjeuner, la machine à café, les rencontres fortuites dans les couloirs, c'est important pour plein de choses. D'abord, c'est important parce que c'est, comme disent les anglo-saxons, un reality check. Il y a quelque chose de très frappant dans cette étude de Microsoft, c'est que quand on demande aux salariés ordinaires que nous sommes tous comment ça va, ils disent, au fond, ça va pas terrible, ils ont pas le moral. Et en particulier, les plus jeunes n'ont pas le moral, ceux qui sont le plus au bas de la pyramide n'ont pas le moral.
Les célibataires aussi
ceux
n'ont pas le moral.
Les célibataires n'ont pas le moral, c'est particulièrement frappant. En revanche, quand on demande au patron comment ça va, ils disent super. Et c'est pratiquement l'image miroir, hein. Vous avez 61% des business leaders, comme dit Microsoft, qui disent que tout va très bien, et 67% des employés célibataires qui disent qu'ils sont en mode survie. Donc vous avez un contraste très étonnant, et ce qui permet un contraste pareil de se matérialiser, c'est juste que les gens ne se croisent plus. Quand vous croisez dans le couloir quelqu'un qui tire une tête de 3 pieds de long, vous lui demandez, mais comment ça va? Allons prendre, enfin, si vous êtes quelqu'un d'à peu près civilisé et normal, vous lui demandez comment ça va, et vous allez prendre un café avec lui pour savoir ce qui se passe. Quand vous n'êtes plus que dans des relations transactionnelles, où vous le croisez dans des réunions vidéo qui durent 29 minutes et demie, et où on passe directement dans le sujet sans faire de petites conversations au début et à la fin, ben, en fait, on perd complètement cette capacité à se rendre compte de qui va bien et de qui va mal. Donc ça, c'est un premier problème. Et l'autre problème qui là aussi ressort de cette étude de manière frappante, c'est qu'on a besoin dans une organisation, pour se sentir appartenir à l'organisation et pour développer son appartenance à l'organisation, on a besoin d'avoir des réseaux qui vont au-delà de ses collaborateurs immédiats. On travaille bien sûr avec son équipe immédiate, mais ce qui fait qu'on se sent appartenir à une entreprise, c'est qu'on croise d'autres gens, qu'on est en contact avec les autres départements, que de temps en temps on déjeune à la cantine, vous le disiez, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et qu'on a donc un réseau un peu étendu. Et il y a une statistique tout à fait étonnante dans cette étude de Microsoft, c'est que le nombre et l'intensité des contacts qu'on a avec nos réseaux étendus sont normalement plus élevés que ceux qu'on a avec nos réseaux rapprochés, avec notre équipe de proximité, et ça s'est complètement inversé au début de la pandémie, c'est-à-dire qu'on s'est mis à ne plus communiquer qu'avec les gens avec qui on a un besoin opérationnel de travailler au quotidien et au jour le jour, et ça s'est resté à peu près constant depuis, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé, on s'est enfermé dans nos silos au moment de la pandémie, on est devenu très productif à l'intérieur de nos silos et très efficace, et on n'a pas retrouvé une manière de communiquer par-delà ces silos avec les autres gens qui sont dans l'organisation. Il n'y a pas besoin de spéculer beaucoup pour imaginer quelles peuvent être les conséquences de ça. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une entreprise si on parle jamais à personne de cette entreprise en dehors des 4 ou 5 personnes avec qui on travaille? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va avoir de la loyauté, de la fidélité, de l'attachement, de l'engagement, de l'authenticité, toutes ces choses dont on nous rebat les oreilles, si les gens ne parlent plus qu'à 4 ou 5 personnes dans leur organisation? C'est terrible. Donc il faut vraiment imaginer d'autres manières de travailler qui vont permettre de faire fonctionner le travail hybride, parce que en fait ce qu'on découvre là, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui ne marche pas du tout derrière les apparences de productivité accrue à court terme.
Il y a un chiffre qui m'a frappé dans l'étude Microsoft, c'est que 41% des salariés envisagent de démissionner. Ce serait du jamais vu, mais est-ce que vous y croyez ?
Non, je crois qu'ils l'envisagent, sinon ils ne le diraient pas. Mais quand quelqu'un vous demande est-ce que vous êtes satisfait de votre travail et est-ce que vous envisagez de démissionner, la tentation de lui répondre oui est beaucoup plus grande que quand il faut signer sa lettre de démission. Donc il y a un gap entre l'intention et l'action qui peut être très très important. Ayant dit ça, c'est quand même un chiffre très élevé. Et c'est un chiffre particulièrement élevé chez les plus jeunes, les générations Z, comme dit Microsoft, et qui, je pense, témoigne de cette perte d'attachement, de cette perte de repère dans l'entreprise. Je parlais avec un ami qui a monté une très grosse start-up, qui est devenue une licorne aujourd'hui, et qui me disait, il commence à y avoir des gens que j'ai chassés, que j'ai recrutés, que j'ai onboardés, donc que j'ai fait rentrer dans l'entreprise, que j'ai évalués et que j'ai virés, sans jamais les voir physiquement. Et quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, que je comprends tout à fait, je ne lui jette pas la pierre, il y était contraint par les circonstances, mais quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 41% des gens qui envisagent de quitter l'entreprise. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait 59% qui ne l'envisagent pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à votre entreprise si vous n'avez jamais physiquement vu personne dans cette entreprise, que vous avez été recruté virtuellement, coaché virtuellement, évalué virtuellement, et qu'un jour vous allez être viré virtuellement? Il faut quand même se demander pourquoi est-ce qu'on attendrait des gens qui aient le moindre attachement.
Merci Olivier Siboni. Vous allez redécouvrir le management. C'est paru l'année dernière chez Flammarion. Je crois que le nouveau vient de paraître aux États-Unis. Il paraîtra en France en septembre. Merci de nous avoir accordé quelques instants. On se retrouve juste après une pause avec Ariane Chemin et Milan Kundera.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Monde, mais cette fois c'est sur les traces d'un des écrivains les plus célèbres du monde que vous êtes parti dans À la recherche de Milan Kundera, qui vient de paraître aux éditions du Sous-sol. Vous vous êtes lancé à la poursuite de l'auteur de l'insoutenable Légèreté de l'être, qui n'a pas donné d'interview depuis 1985. Alors pourquoi a-t-il choisi de disparaître médiatiquement, Milan Kundera ?
Je me pose encore la question. Soit il a vraiment une phobie de l'autre, de la médiatisation. Les années 80, c'est quand même le début du bling-bling. Peut-être qu'il a peur de ça.
Enfin, il est surtout à ce moment-là redevenu immensément célèbre.
Absolument. Il devient célèbre d'un coup avec la soutable légèreté, traduit dans tous les pays. Ses livres sont traduits dans toutes les langues, hein, y compris en chinois. Il a un succès incroyable en Chine. Et puis, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une posture d'écrivain, hein, l'écrivain qui veut se retrancher derrière son œuvre, qui dit que seule l'œuvre existe, l'auteur n'a aucune importance, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il a un secret et qu'il n'a pas envie qu'on aille fouiller dans sa vie? C'était la question que je me suis posée au départ.
Mais j'ai l'impression que c'est plus une quête qu'une enquête, ce livre.
Alors, c'est une quête peut-être du seul petit moment où je pourrais éventuellement rencontrer cet écrivain qui a surtout enchanté ma jeunesse. C'est surtout ça, Milan Kundera. Pour moi, c'est tout d'un coup, c'était avant la chute du mur de Berlin, c'était l'univers d'une Europe centrale très proche et très lointaine à la fois, le culte de l'intimité qui me plaît. C'est vraiment un écrivain de l'intime et ça, j'ai aimé ça. Et donc, je suis partie sur ces traces en me disant, bon, de toute façon, j'y arriverai jamais, il ne voudra jamais me rencontrer. Et j'ai trouvé ça, en fait, je crois que j'ai beaucoup pensé à un livre de Guettalès, le journaliste américain qui part à la recherche de Frank Sinatra. Et en fait, à chaque fois, très poliment, l'attaché de presse de Frank Sinatra lui dit, écoutez, aujourd'hui, il a un rhume. D'ailleurs, c'est très ennuyeux parce que tout se joue sur sa voix, il ne peut pas chanter. Venez à une répétition, puis finalement, ça ne marche jamais. Et il finit par écrire son enquête, puis son livre sur Frank Sinatra. Et je me suis dit, bon, allez, de toute façon, même si je ne le rencontre pas, peut-être que je peux rencontrer quand même, raconter sa vie follement romanesque.
Vous avez rencontré sa femme, Vera, qui était une vedette de la télévision tchèque. Mais est-ce que vous l'avez rencontrée vraiment ou vous contentez de vous envoyer des textos?
Je la rencontre une première fois dans un café à Paris, avant le confinement, puisqu'on a bu un café. Et elle m'observait, elle me brusquait un peu aussi. Je me souviens qu'à un moment, elle a gribouillé mon carnet de notes. Elle parlait comme on parlait au temps de la guerre froide. Les journalistes sont des chiens renifleurs. Alors, je devais faire remarquer qu'elle était journaliste, elle aussi. Et puis, elle s'est radoucie. Et c'est elle-même qui a renoué le contact quelques heures après, en m'envoyant des textos très gentils, surtout très poétiques. Et donc, sans leur dire, je suis partie à Prague et à Brno, dans la ville natale de Milan Kundera. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à lui demander, est-ce que je peux vérifier des choses avec vous? Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non? Alors, parfois, elle me rabrouait. Je me souviens, par exemple, j'ai dit, je n'arrive pas à comprendre quelle année vous vous êtes mariée. Elle me dit, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Donc, elle jouait beaucoup, mais elle répondait toujours. Et ça a été, en fait, très amusant, parce que c'est comme si elle se met des petits cailloux blancs sur cette enquête qui l'angoissait aussi, hein, je dois dire. Je voyais bien qu'elle était inquiète.
Sa biographie dans ses livres, Milan Kundera, se résume à deux lignes. Hein. Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie. En 1975, il s'installe en France. Officiellement, on devrait se contenter de ça.
Voilà, ultime snobisme quand même, hein, pour quelqu'un qui a une vie si incroyable. Parce que c'est ça qui m'avait quand même beaucoup fascinée, c'est de savoir qu'il naissait 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, la Tchécoslovaquie était toute jeune, il connaît l'invasion nazie. Ensuite, il connaît le communisme. Il arrive pendant toute une époque entre 1975 et 1981, le moment où François Mitterrand lui donne la nationalité française. Il est apatride, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Et puis, il reprend l'année dernière la nationalité tchèque. Je me suis dit, mais quelle vie! Il a en plus traversé 2 siècles, il franchit les frontières, il écrit dans 2 langues. C'est fascinant, je trouve.
Son premier roman, La plaisanterie, paraît pendant le printemps de Prague. Au moment où il va paraître en France, les chars soviétiques entrent en Tchécoslovaquie. Et au fond, on a l'impression qu'il y a un malentendu dès le départ. Il ne veut pas devenir un dissident. Il y a beaucoup de dissidents à l'époque. Il ne veut pas devenir un dissident.
Il est l'anti-Vaclav Havel.
Voilà, il ne veut pas s'exiler. Or, les autorités tchécoslovaques le poussent à partir, et les Français n'ont qu'une envie, c'est de l'accueillir.
Oui, les Français rêvent de l'accueillir parce que c'est un écrivain qui est déjà assez connu, et aussi c'est très frappant, ça, c'est pour ça que j'ai pas regretté d'être allée à Prague, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un culte Kundera à Prague, pas du tout. J'ai essayé de faire le Kundera Tour, ça n'existe pas. On le compare tout le temps à Vaclav Havel, mais du coup en minorant ses qualités, en disant Vaclav Havel il a fait de la prison, il est devenu président, ça je l'ai beaucoup entendu, et Milan Kundera il est parti en France, il est devenu écrivain.
Légalement en voiture, voilà, avec sa femme, en revenir.
Tout bonnement, et en fait, donc il n'est tout sauf un exilé et tout sauf un dissident, et il y a un malentendu effectivement, ne serait-ce que par exemple parce que la plaisanterie est préfacée par Aragon, et j'avais remarqué que dans sa Pléiade, il avait carrément viré la préface d'Aragon.
Alors on va s'apercevoir effectivement dans ce livre, en lisant votre livre, Ariane Chemin, qu'il a beaucoup gommé Milan Kundera. Quand on lit la Pléiade, au fond, on ne lit pas véritablement les livres de Kundera tels qu'on les a découverts les uns après les autres. Ils ont été gommés par l'auteur. Et de la même manière que si on a lu La Plaisanterie, son premier livre, dans sa première traduction en France, au moment où tout le monde adore Kundera, c'est pas du tout un livre de Kundera. Il a été totalement réécrit par son traducteur. Et quand le Kundera s'en aperçoit, il a les cheveux qui se dressent sur la tête.
Oui, on fait jamais assez attention aux traducteurs qui peuvent être des traîtres. En l'occurrence, celui-là en était un. Il a complètement réécrit à sa sauce ce livre. Et un jour, Alain Finkielkraut discute avec Milan Kundera et lui dit « Quand même, vous avez beaucoup changé d'écriture, je trouve, entre La Plaisanterie aujourd'hui. » Et Milan Kundera ne comprend pas très bien de quoi il lui parle. Donc il se fait traduire la traduction de son traducteur et là, il se dit « Quelle horreur !» C'était bourré de clichés, très amusant.
Et surtout, on s'aperçoit que ce traducteur qui s'appelait Marcel Aymonin, alors vous le saurez, si vous avez la Plaisanterie traduite par Marcel Aymonin, ça n'a rien à voir avec La Plaisanterie de Milan Kundera, mais il a été un membre du Parti communiste depuis 1948. Il avait demandé l'asile politique à Prague en 1951, et ce qui fait que vous vous demandez si c'est pas un agent secret.
Je ne l'exclus pas, c'est peut-être un agent secret. C'est ça qui est intéressant quand on se plonge dans cette vie-là, c'est que ça nous paraît très très lointain, mais c'est l'époque quand même de l'espionnage. J'ai beaucoup pensé au film La vie des autres, puisque en consultant les dossiers de la police secrète tchèque, on voit qu'ils ont été surveillés comme beaucoup d'autres tchèques, mais de manière complètement invraisemblable, ridicule dans leurs faits et gestes, leurs discussions, leurs cafés, leurs promenades, tout ça paraît fou et très lointain.
Alors en 2008, Milan Kundera est tout de même obligé de réagir, lui qui ne parle plus aux journalistes, qui n'apparaît plus nulle part. Il est obligé de réagir publiquement quand un document de la sécurité d'État tchèque est exhumé. À 20 ans, il aurait dénoncé un opposant au régime communiste qui, à l'époque, a été condamné à une lourde peine.
Absolument. Et c'est quelque chose qui l'avait pris comme ça de plein fouet quand il était en France, beaucoup meurtri. Et comme souvent, en France, quand il s'agit de défendre des écrivains, des intellectuels, on ne regarde pas tellement les faits. Hein, et toute l'intelligentsia parisienne avait fait des grandes tribunes pour le défendre. Et moi, je me disais, au fond, est-ce que c'est vrai cette histoire ou est-ce que c'est pas vrai? C'est pas parce qu'on défend quelqu'un bec et ongles qu'il est absolument innocent. Et ce qui est compliqué dans ce dossier, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais rien de cette histoire. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant l'ensemble du dossier, d'abord, j'ai compris qu'ils étaient eux-mêmes espionnés. J'ai compris aussi le nombre d'erreurs factuelles qu'il y avait. Ça me frappait, par exemple.
Les polices politiques sont pas très précises en général.
Ah non, et ça faisait beaucoup rire Vera Kundera parce que je lui disais, je vois que vous avez discuté de votre chienne avec un tel. Elle me dit, non, c'est pas une chienne, c'est un chien. Non, elle a jamais vu ce dossier-là elle-même. Ça n'est pas le bon nom de mon chien. Elle me disait, non, nous n'avons pas quitté la France en 75 dans une voiture bleue comme l'écrit la STB, comme vous me le dites plus exactement, elle était rouge. Donc évidemment, tout ça est troublant. On se dit, mais pourquoi je croirais au fond ces dossiers-là?
Dernière chose, vous avez fini par entendre sa voix quand même.
Oui, alors ça a été, c'est mon côté un peu midinette a été comblé, je dois dire, puisque au départ, c'était une série que j'avais faite pour mon journal, Le Monde, et quand elle a été terminée, Vera Kundera m'a téléphoné, et tout d'un coup, j'ai entendu une voix masculine, cette voix que j'avais entendue à apostrophe 30 ans avant, cette voix un peu languide et avec cet accent tchèque très charmant, et qui me parlait, et je me souviens qu'il m'a dit « Ariane ». C'est Milan. Et puis il m'a dit des choses très douces et très gentilles que je ne répéterai pas là, parce que pour le coup c'est intime. Mais, et après, Vera Kundera lui a repris le téléphone, ça a été terminé. Et je me disais, bon, ben, ne serait-ce que pour cette minute, avoir entendu la voix de Milan Kundera, ça vaut l'enquête.
À la recherche de Milan Kundera, un récit d'Ariane Chemin, c'est comme ça que c'est présenté, avec une très belle photo de Milan sur la couverture. Ça vient de paraître aux éditions du Sous-Sol. Merci Ariane Chemin d'être venue nous raconter ça à Europe 1.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé demain et parvenu à son terme. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Votre invité, Mickaël, c'est Gabriel Attal.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement et également le sniper de la majorité. Le printemps des revendications ou le printemps de la vaccination?
Bonne émission, Mickaël.